Bonjour à tous. Je vais vous faire un aveu. Je n'ai jamais prêché sur Noël à Noël. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Je dois vous dire que j'ai une certaine résistance à l'esprit qui entoure Noël. C'est cette atmosphère, l'annonce de la bénédiction, de la grâce faite à Marie, à Joseph, c'est merveilleux, ils attendent un enfant. La naissance ensuite, les tables et l'imagerie populaire dont on est tous familiers, ces deux parents béats devant cet enfant magnifique dans la crèche, les animaux autour qui réchauffent le bébé de leur souffle, tout cet environnement que l'on a peu à peu construit et dont nous évangéliques, ne sommes pas totalement étrangers. Dans nos chants, dans les sketchs des fêtes de Noël, c'est vrai que c'est super Noël, tout baigne, la naissance de Jésus. Tout à l'heure, on a chanté dans le 204, le chant suivant, les paroles suivantes au début. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est remplie dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix. Alors, si ça fait allusion à Noël, mais ça ne fait probablement pas allusion qu'à ça, si ça fait allusion à Noël, enfin, il faut redescendre un petit peu les pieds sur terre. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, vous êtes tous familiers des textes bibliques, des deux évangiles, Matthieu et Luc, qui nous racontent un peu les circonstances de la naissance de Jésus, le cadre politique, le cadre géographique, le cadre familial, etc. La terre est dans la joie. Enfin, soyons modestes, il y avait un petit groupe de bergers simplement qui ont entendu la nouvelle et qui ont, eux, été dans la joie. Les bergers, cette profession la plus méprisée au sein d'Israël. Les mages auxquels on pense souvent, c'est probablement une bonne année après que ça s'est passé. Et l'obscurité s'enfuit quand on voit tout le parcours de Jésus pendant son ministère jusqu'à la croix. L'obscurité a mis du temps à s'enfuir. C'est vrai qu'après, c'est vrai que nous sommes bénéficiaires d'une naissance de Jésus-Christ autrement plus glorieuse par le ministère qu'il a accompli, les paroles qu'il a prononcées, etc. Tout ceci fait que Noël, de l'image de romance qu'on lui a donnée, je préfère voir l'aspect aussi dramatique. Dieu a fait en sorte que le cadre et les circonstances de sa propre venue sur terre en tant qu'homme reflètent surtout l'humilité, la pauvreté, l'insignifiance, plus que la gloire grandiose que l'on imagine de temps en temps. C'est un peu comme si Dieu, pour son arrivée sur cette terre, avait fait en sorte qu'on ne puisse pas le taxer de favoritisme en disant « tu viens, tu mets en place tout ce qui fait la réussite de ton ministère, ton confort, etc. » dans la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais dès la naissance du Christ, Jésus-Christ a connu les circonstances les plus dures de la condition humaine et ses parents avec lui, il faut bien le reconnaître. Et j'aimerais ce matin mettre l'accent sur un seul aspect qui environne Noël. Il n'y a pas beaucoup de luminosité. On peut éteindre encore un peu. Voilà, je me la joue un peu Arnaud Potier, hein, vous savez. Je voulais lui faire ce clin d'œil, il n'est pas là ce matin, c'est dommage. C'est un tableau de Jean de la Tour, l'annonce faite à Joseph. Alors, Joseph me paraît un petit peu vieux par rapport à ce que probablement il a été. Rappelons un petit peu la chronologie. Tu peux remettre un peu de lumière. Rappelons un petit peu la chronologie de cela. Et on va lire le texte. Les évangiles se sont partagés le récit des annonces. Dans Matthieu, c'est l'annonce faite à Marie. Je vous rappelle un petit peu comment... Et l'annonce faite à Marie a été chronologiquement la première chose qui est arrivée. L'ange qui vient vers Marie, qui lui dit « Une grâce t'a été faite ». Marie, elle est toute troublée. Et elle va probablement l'être encore un peu plus lorsque l'ange lui dit « Tu es enceinte ». Et Marie, très interrogative, dit « Mais comment cela va se faire? J'ai pas connu d'homme ». Elle est à ce moment-là fiancée avec Joseph. Je rappellerai un petit peu à quoi ça correspond cela tout à l'heure. Et donc l'ange lui dit « C'est le Saint-Esprit qui va te couvrir, tu vas tomber enceinte du Saint-Esprit ». Nouveau ça, jamais arrivé. Chronologiquement, elle va aller l'annoncer à Joseph. Et ensuite, le récit nous dit qu'elle part en hâte. Pourquoi part-elle en hâte vers une parente qui s'appelle Élisabeth, qui est loin de son village? Probablement pour laisser le temps à Joseph de réfléchir un petit peu à la situation. Parce que sa réaction première, qui ne nous est pas décrite dans les évangiles, je vous laisse un peu l'imaginer. Enceinte. Et l'Écriture nous dit dans Luc, on va le lire, que Marie c'est dans Matthieu, que le récit est... J'ai inversé les évangiles. Dans Luc, l'annonce est faite à Marie, et dans Matthieu, il nous est dit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. » Verset 19, « Joseph, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. » Je vous invite à imaginer un petit peu ce matin le processus dans l'esprit de Joseph entre ce verset 18 et ce verset 19. Sa femme, sa fiancée, immédiatement après l'annonce de l'ange et l'annonce vraisemblablement faite à Joseph, puisqu'il a eu le temps de réfléchir et d'élaborer un projet qui était le sien, le scénario que Dieu va changer ensuite, sa femme est partie, elle est loin. Il n'y a pas le téléphone, les SMS pour communiquer, et Joseph se retrouve seul avec ça dans les bras. Ta fiancée est enceinte. Essayons d'imaginer un petit peu les choses. Prise de conscience de ce que ça va comporter. Le choc de l'annonce. Sa fiancée bien-aimée, avec qui il avait déjà fait tous les projets. Ils étaient officiellement mariés. Le statut de fiancé en Israël correspondait à ça. Ce que nous appelons, nous, la cérémonie civile, qui officialise le lien, avait déjà eu lieu. Et ils étaient dans les préparatifs de la noce. La dot, vraisemblablement, était soit déjà mise de côté, soit déjà versée. Et donc le choc de l'annonce de la grossesse. Sa fiancée enceinte. Quelque chose qui nous choque peut-être beaucoup moins maintenant, mais une infamie en Israël. Un petit village, Nazareth, où la rumeur court à toute vitesse. Où les gens se retournent avec un petit sourire, où sa propre moralité à lui est mise en question. Est-ce toi qui l'as mise enceinte? La honte à porter. Des explications à donner à ses propres parents. On ne nous parle pas des parents de Marie ni des parents de Joseph, mais il y a des explications à donner. Et je vous le rappelle, Marie n'est plus là, elle est partie, chez sa parente Élisabeth. elle aussi probablement réfléchie, mûrie, l'annonce faite par l'ange. Et puis, une explication à gérer qui lui a été donnée, le Saint-Esprit. Imaginez les doutes, les suspicions, le Saint-Esprit, mon œil, les accusations, la perte de confiance. Je vous rappelle que depuis 4 siècles, Dieu n'avait plus parlé à son peuple. C'est le silence intertestamentaire entre le livre de Malachie et le début des évangiles. Alors, le Saint-Esprit maintenant, qui met sa fiancée enceinte, enfin, comment accepter ça? Comment humainement le croire? La suspicion d'adultère, avec ce que cela implique, puisque immédiatement, semble-t-il, Joseph a réfléchi aux implications pratiques et il s'est dit « qu'est-ce que je vais faire ?» La répudier, donc puisque le mariage était célébré, c'était le statut de fiancé, il fallait un divorce. Divorcer en déclarant la cause du divorce, la cause judiciaire du divorce. Ça voulait dire l'exposer à un jugement qui, il est vrai, n'était plus tellement pratiqué, mais qui dans la loi était inscrit sous le terme de lapidation. Et tout cela qui se remue dans sa tête. De toute façon, sa fiancée, même s'il agit comme il pensait agir, c'est-à-dire la répudier sans donner la cause, il en faisait une fille mère. Et une fille mère, à cette époque-là, c'est une fille qui ne se mariait plus, qui n'avait pas d'avenir, qui n'avait plus de protection familiale, sociale ou autre. Des projets que probablement Joseph avait faits, c'est dire je vais fonder mon couple, on va s'installer, on va habiter un logement, une maison, on aura des enfants, et le petit, l'aîné, il deviendra charpentier comme moi, il reprendra la boutique. Tous ces projets mis à terre. Un fils voué à être fils illégitime et à porter cette marque toute sa vie dans ce village. Enfin, vous voyez que il y a un idéal complètement brisé. Et puis, une dernière question. Marie lui a dit, c'est le Saint-Esprit. Un fils du Saint-Esprit, ça ressemble à quoi? Vite, on fait une échographie pour voir. Vite. Parce que ça ressemble à quoi? En tout cas, ça ne me ressemblera pas à moi. Enfin, vous imaginez un peu toutes les questions qui viennent autour de l'annonce. Cela nous est dit en quelques versets, nous ne retenons que ces versets, et les côtés beaux, positifs de la chose. Cette semaine, au Parlement français de notre pays, une disposition a été votée, qui est passée totalement inaperçue dans les médias, qui retire de la loi Veil sur l'interruption de grossesse le motif qui était inscrit auparavant, qui était « femme en situation de détresse ». Alors, il est vrai que ce motif a été interprété de la façon la plus large possible et qu'il n'avait plus d'application pratique, en vérité. Mais c'est quand même significatif de voir que, désormais, une femme librement, sur la base de sa seule décision, sans avoir à rien justifier, peut mettre fin à une grossesse. Je tremble à l'idée que ce couple, Marie-Joseph, se soit trouvé à notre époque. Vous voyez ce que je veux dire? Ce couple et cette naissance démarrée dans de telles conditions que je me dis peut-être que le projet de Dieu n'aurait pas abouti. Aurait pu humainement ne pas aboutir, vu les facilités qui étaient données, qui sont données actuellement. Le sort du monde aurait pu en être bouleversé. Alors, toutes ces tergiversations que j'évoque, et je fais peut-être de la fiction, mais ça me paraît quand même humainement hautement probable, Joseph les a eues des nuits entières, des nuits d'insomnie, vraisemblablement. Et tout ceci, donc, je le répète, en l'absence de sa fiancée, avec qui dialoguer, se dire mais comment on va faire, comment on va exposer les choses. Et donc, il aboutit à une décision qui est celle de divorcer sans donner le motif, de façon à ne pas charger un peu plus sa culpabilité. Et c'est à ce moment-là, donc, chronologiquement, qu'un ange du Seigneur lui apparaît en songe et qui lui redit « Ne crains pas », je continue la lecture au verset 20, « Un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » C'est une confirmation. Mais elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Alors, la fin est belle, mais j'ai essayé de brosser un petit peu le cheminement entre le moment où l'annonce lui a été faite, tout ce qu'il a pu humainement envisager, les projets qu'il avait faits concrètement, et puis le produit final, qui est l'acceptation finalement que cet enfant effectivement vient de Dieu. Il est totalement atypique, mais il vient de Dieu. Et cela nous montre que, peut-être c'est une première leçon qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que de la prise de conscience de la situation, en l'occurrence celle de Joseph, mais ça peut être d'autres situations dans lesquelles nous ne voyons pas d'issue, où les solutions humaines que nous pouvons imaginer, alors que ce soit sur le plan familial, conjugal, que ce soit sur le plan personnel, etc., je voudrais que nous généralisions ça à chacune de nos situations. Situations qui nous apparaissent complètement sans issue, insolubles, jusqu'à la révélation d'un projet de Dieu pour nous, pour sortir de cette situation, et à l'obéissance surtout à ce projet, il y a tout un cheminement. L'Écriture ne nous dit pas combien de temps cela a pris, combien de temps Joseph a réfléchi, brassé le problème dans tous les sens avant que l'ange le lui annonce et que finalement, 3 mois après, au retour de sa femme, il la prenne avec lui. Au retour de sa fiancée, il la prenne avec lui pour femme. Il y a tout un cheminement. Et ce cheminement, Dieu le connaît. Dieu sait que nous ne sommes que poussière, dit l'Écriture. Et que nous pouvons, face à un problème, envisager nos solutions personnelles, humaines, qui ne sont pas celles de Dieu. Que nous pouvons aller de doute en déception, en tergiversation, mais que Dieu, lui, a le mot final. Et qui est la bonne solution, celle qu'il nous révèle et qu'il nous montre dans sa parole. Dieu sait que nous sommes de cette nature-là, et Dieu a cette patience avec nous, la même qu'il a eue avec Joseph, pendant ces semaines ou ces mois peut-être d'hésitation. Parce qu'une fois que l'ange lui a révélé cela, est-ce que c'est la fin des doutes? Pas sûr. Parce qu'on peut dire, oh, ce n'était qu'un rêve. Et puis on revient à nouveau à brasser ses idées humaine et personnelle que l'on avait au sujet de cette grossesse. La deuxième chose que je vois dans ce récit, c'est que pour Joseph, comme pour Marie, les problèmes ne sont pas forcément terminés. Il va y avoir un prix à payer, et là encore, ça tranche avec la romance habituelle de Noël. Il y a un recensement qui est annoncé. La seule présence du seul chef de famille était suffisante lors d'un recensement, chose habituelle. Je vous signale quand même qu'un recensement n'avait qu'un but, c'était de mettre à jour les listes d'impositions de lourdes taxes qui étaient imposées au peuple, à la fois par l'occupant romain et par un Hérode cruel, Hérode le Grand, qui menait grand train de vie. Faisait des constructions somptueuses en taxant au maximum le peuple sans considération pour les revenus de chacun. Donc un recensement est prononcé, la présence du seul chef de famille était suffisante, et on voit Joseph qui part pour un voyage de 145 km avec sa femme sur un âne, vraisemblablement, pour aller à Bethléem, le lieu où il devait légalement se faire enregistrer. C'est curieux. Est-ce la fin des bruits qui courent dans Nazareth qui l'ont poussé à cela? L'Écriture ne nous dit rien, mais c'est curieux qu'il emmène sa femme prendre le risque de l'accouchement qui finalement va avoir lieu, loin de chez lui, loin de la famille, sans aucune assistance, dans des conditions d'hygiène et de confort, innommables. Probablement qu'il y avait encore un prix à payer de cette grossesse atypique, et que les explications données dans tout le village de Nazareth, non mais c'est le Saint-Esprit, elles faisaient probablement éclater de rire les gens autour d'eux, et qu'il fallait supporter cela. Il y a un autre prix à payer, l'accouchement, comme je viens de le dire, le déplacement. Benjamin, tu te serais vu accoucher Bénédicte il y a une semaine, comme ça, tout seul, sans sage-femme, loin de tout, loin de la famille, loin d'assistance, en plus. Pas de place digne pour accueillir une femme enceinte, on connaît tout ça, je ne développe pas plus. Et puis ensuite, c'est pas fini, la fuite à l'étranger, parce que Hérode le Grand va apprendre cette naissance et va faire exterminer tous les nouveau-nés de Bethléem. À Marie, ensuite, lorsque Siméon, de retour d'Égypte, présentera Jésus, Siméon, de la part de Dieu, sera très lucide et terre à terre. Et il lui dira, oui, c'est une bénédiction cet enfant. Il vient, il sera le sauveur de son peuple, mais une épée te transpercera le cœur. Et quand vous lisez le récit de la crucifixion, vous voyez que Marie a été témoin du début à la fin de la mort de son fils sur la croix. Et que restée veuve, il a fallu que Christ confie la garde de Marie à Jean. Donc il y a un prix à payer pour l'obéissance. Et ça aussi est une leçon pour chacun d'entre nous qui nous édifie, que lorsque nous avons brassé toutes nos solutions humaines et que Dieu a dit non, ce n'est pas celle-ci, c'est une autre, et que nous choisissons d'obéir, eh bien, ce n'est pas forcément toujours un chemin de facilité. Il nous est dit de Joseph, au début, qu'il était un homme de bien. Qu'est-ce que c'est qu'un homme de bien? C'est un homme qui, comme on le voit ici, était à l'écoute de son épouse. C'est un homme qui, peut-être malgré tous les doutes que j'ai décrits et qui l'ont envahi, a été prêt finalement à lui faire confiance. C'est un homme qui a fait face à ses responsabilités dans une situation des plus fermées, qui a assumé avec courage. C'est un homme qui s'est oublié lui-même pour sa propre épouse, pour sa propre famille. C'est un homme qui est à l'écoute de Dieu. Mes sœurs, est-ce que vous aimeriez de tels maris, des hommes de bien? Et cela m'a amené à m'interroger, parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai été poursuivi par la mise en parallèle d'un autre récit de l'Écriture qui est dans l'Ancien Testament. Parce qu'il y a des analogies entre le récit de la naissance de Samuel, le prophète Samuel, et ce récit de la naissance de Jésus avec Joseph et Marie placés dans cette situation. C'est une problématique qui n'est pas tout à fait la même, mais une problématique autour de la naissance. Dans 1 Samuel, chapitre 1, il nous est dit que Anne était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était dans une situation de polygamie. Elle était victime du mépris, de la risée de l'autre épouse de son mari, Elkana. Et chaque année, elle allait et elle implorait Dieu pour que Dieu lui donne un enfant. Une situation où humainement, elle ne pouvait rien faire, elle attendait tout de Dieu. Et il n'y avait pas de réponse de Dieu. Et année après année, elle était attristée, éplorée, sous le mépris de l'autre épouse, de Pénina, l'autre épouse de son mari, qui, elle, avait des enfants. Et cette femme, son mari l'aimait, Elkana, mais il l'aimait à sa façon. Il aimait en lui donnant une double portion des repas tirés du sacrifice. Mange, ça te passera. Et quand sa femme, Anne, pleurait, se lamentait de la chose, Elkana lui disait au verset 8, « Anne, pourquoi pleures-tu ?» Aucune prise de conscience de la dimension de la souffrance et de sa femme. Et ne manges-tu pas ? Mange, ça te passera. Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Alors qu'il était témoin de cette souffrance renouvelée année après année, du mépris dont était victime sa femme, est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ? Dire, regarde-moi, est-ce que tu n'as pas tout en moi ? Une consolation complètement à côté de la plaque. Et cette femme qui va se trouver dans le temple de l'Éternel, ce qui précédait un petit peu le temple de l'Éternel, en forme de tabernacle, etc., l'amertume dans l'âme, elle priait, elle versait des pleurs. Et voilà qu'un autre homme arrive dans sa vie, Élie le sacrificateur, et la voyant en train de prier, de remuer les lèvres et tout, il lui dit, « Mais jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Cette femme, elle a une expérience des hommes qui est assez particulière. « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. » Vous connaissez la suite ? Dieu va donner. Dieu va être à l'écoute de cette femme. Dieu va lui donner cet enfant tant espéré qu'elle mettra à disposition de l'Éternel et il sera un des plus grands sacrificateurs et prophètes en Israël, Samuel. Je vois une certaine, pas similitude, mais le contre-type dans ces deux hommes que Anne a côtoyés, son mari Elkana et le sacrificateur Élie, le contre-type de ce qu'a été Joseph. Et je voudrais simplement dire que souvent dans l'Écriture, le contraste nous parle. J'ai conscience que peut-être cette fin de ma prédication ne concerne que la moitié de la salle, ne concerne que la gent masculine. Mais je dois dire que je me sens repris quand je vois Joseph, comment il a agi, malgré la situation inextricable dans laquelle il se trouvait, comment il a agi en tant qu'homme, qualifié homme de bien dans l'Écriture, et comment je vois d'autres, un Elkana ou un Élie, et je me dis que de temps en temps dans ma vie, j'oscille bien entre l'un et l'autre. Et que même chrétien de longue date, mes frères, nous pouvons parfois aussi errer entre une attitude et une autre. N'écoutez pas mes sœurs, parce qu'en rentrant à la maison, vous allez régler des comptes, je le sais. Vous allez répéter le message, ne le faites pas. Une fois suffira. Mais ces histoires qui ont été inscrites dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul nous dit qu'elles ont été inscrites pour nous servir d'exemple et que nous ne pouvons pas les lire simplement comme des récits, mais comme des récits qui nous présentent des prototypes de ce que nous sommes nous aussi. En l'occurrence, aujourd'hui, je parle d'hommes. Mais on pourrait trouver des prototypes de femmes aussi une prochaine fois, mes sœurs. Que le Seigneur nous aide en cette fin d'année peut-être à considérer quelque chose du message de Noël qui n'est pas du tout le message habituel de Noël, mais de dire... À quel prototype est-ce que je ressemble ? Joseph, un homme de bien, qui, malgré l'agitation de ses pensées, toute humaine et normale que l'on peut estimer, a agi dans l'écoute, la considération de sa femme, et a pris acte d'un état de fait inattendu et a malgré tout aimé cette femme parce qu'il a été à l'écoute de Dieu et qu'il a été ensuite un père probablement modèle du petit Jésus-Christ qui était né dans sa famille, puisqu'il nous est dit que tout au cours de son éducation, Jésus-Christ croissait en stature, en sagesse. Ou est-ce que nous ressemblons à ce prototype d'homme centré sur eux-mêmes dans l'égoïsme et qui ne sont pas à l'écoute, ne prennent pas en compte la souffrance féminine? Et nous avons, il faut le reconnaître, une certaine difficulté à prêter l'oreille à cette souffrance et à la comprendre, parce que ce n'est pas la nôtre, ce n'est pas notre fonctionnement peut-être, et apporter des réponses complètement à côté de cette souffrance. Que le Seigneur nous aide, en cette fin d'année, début de la prochaine, à peut-être prendre des résolutions ou des engagements, ou reconsidérer les choses par rapport à ce que nous vivons dans le cœur intime de nos couples ou de nos familles. Moi-même, je me sens interpellé par ce récit, je vous le dis franchement, et que le Seigneur nous aide à tirer de l'Écriture ce que l'Écriture veut nous enseigner véritablement, c'est-à-dire avoir un impact dans nos vies, dans le cœur de nos vies, véritablement. Amen.